jamais vu crever autant de monde.
Libre Radio, la radio des survivants.
Et voilà, salut à toi auditeur, nous sommes donc de retour pour cette deuxième édition de notre rubrique Info et Technologie orientée libre. Il s'avère qu'en fait on a décidé d'y attribuer quand même un nom à cette rubrique pour finir, parce que faut quand même la nommer, hein, tout en sachant que bien entendu rien ne reste figé dans le marbre, donc sentez-vous libre si par hasard comme ça vous avez une illumination, mais pour l'instant c'est vrai que on a décidé que cette rubrique, ça collait bien, qu'on allait sans doute l'appeler Connexion Libre. Alors voilà, c'est la rubrique de la Connexion Libre. D'ailleurs, on remercie notre ami Lucas qui nous a fait cette proposition et qu'on salue depuis son travail à Paname. Voilà. Alors, pour cette deuxième session, je vais donc moi très rapidement revenir et condenser, synthétiser un peu tout ce qu'on a dit lors du mois passé. Et je vais revenir sur les quelques petites questions, remarques qu'on m'a fait depuis cette dernière édition. Et ensuite, donc, nous passerons à notre rubrique, notre sujet du mois, le libre et l'éducation. Ça me permet de vous introduire donc mes deux camarades, mes deux copains de jeu pour cette petite demi-heure qu'on va passer ensemble. Je suis donc en compagnie de Mallory.
Bonjour.
Et de Richard.
Salut.
Qui sont respectivement donc représentants de la Crypto Party Genève ainsi que de l'Aimant Libre, pardon, qui sont deux organisations, deux associations, deux groupes, deux citoyens qui militent. Pour la démocratisation, peut-être que je vous laisse placer deux mots sur les choses que vous mettez en avant et les activités que vous proposez.
Alors les crypto-parties, c'est des ateliers qu'on organise qui sont destinés à tout le monde, vraiment à large public, pour apprendre à protéger sa vie privée sur internet notamment, et puis avoir des bonnes pratiques informatiques.
Bonjour. Bon, les mains libres proposent plutôt des install parties qu'on a renommées pour qu'elles soient plus connues comme café informatique libre. C'est des séances dans lesquelles on fait connaître Linux, que c'est le troisième choix dans le système d'exploitation pour tous les ordinateurs.
Très bien, et ça me permet de rebondir et de revenir sur ce qu'on a dit donc le mois passé. On a essayé de faire la distinction entre ce que c'était qu'un OS, un système d'exploitation, et un programme ou logiciel. On en est arrivé à donner plusieurs métaphores, plusieurs analogies comme ça, en essayant de vous expliquer que un ordinateur étant une machine, il faut une sorte de moteur pour faire tourner cette machine, que ce moteur-là est le système d'exploitation, et qu'à cette machine, à cette boîte, on y ajoute des outils, des fonctions, des programmes qui nous permettent d'écrire du texte, d'écouter de la musique, de nous connecter à Internet, etc., etc., etc. On a essayé d'expliquer aussi que nous, en tant que consommateurs, qu'utilisateurs de ces matériaux, on avait le choix. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si on se rend sur un marché informatique, on va nous proposer un Apple avec le système d'exploitation, le moteur Mac, et un autre ordinateur d'une autre marque avec un système d'exploitation autre, Windows. On s'est rendu compte, et on a essayé de vous expliquer qu'il y avait une alternative à tout ça qui s'appelle Linux et qui vous propose gratuitement les mêmes services. C'est-à-dire que ça rend votre machine opérationnelle et ça vous permet ensuite d'y installer justement tout ce qui va pouvoir vous faire profiter de traitement de texte, d'écoute de musique, etc., etc. On est aussi venu sur... On vous avait aussi... faire remarquer que justement quand on se rendait dans un marché informatique à l'heure actuelle, on n'avait pas vraiment le choix, vu que Linux ne nous était jamais proposé. Et que de toute façon, on achetait non pas seulement le matériel physique, mais par défaut, un système d'exploitation qui était déjà installé dessus et qui se répercutait évidemment sur le prix de la machine que vous allez acheter. La répercussion peut aller de 15 à 30% du prix, donc c'est quand même beaucoup. On a aussi essayé de vous expliquer qu'en fait, il devrait être normal en tant que consommateur de au moins pouvoir demander à avoir une machine sans système d'exploitation qui pourrait être une machine du coup vierge et du coup moins chère. Voilà, en gros, je crois que j'ai fait le tour. De ça a émergé d'abord une question. Le mois passé, Philippe était là pour nous expliquer aussi un peu tout ça et il nous a expliqué qu'en fait, il était très simple d'installer Linux. Il nous suffit d'une clé USB avec le Linux installé dessus, de la brancher et tout roule. Eh bien en fait, il s'avère que c'est vraiment si simple que ça. N'importe qui a un jour acheté un ordinateur s'est retrouvé devant l'ordinateur à presser pour la toute première fois de la vie de l'ordinateur sur le bouton « On » Et là, le fameux installateur Windows se met en route et vous propose de choisir votre langue, votre région, votre fuseau horaire, la disposition de votre clavier, toutes ces choses-là. Et bien entendu que quand vous mettez une clé USB dans un ordinateur avec Linux, une clé USB avec Linux dessus, il est bien entendu que ce guide est là pour vous accompagner aussi. Et donc quand vous faites cette démarche-là, au final, vous avez en face de vous exactement la même chose que lorsque vous mettez en route un ordinateur sous Windows. Traitement de texte, navigateur internet, etc., etc., etc. Tout en faisant le choix conscient d'installer des produits qui sont libres. Et à ça, je rebondis aussi en précisant qu'il faut bien faire attention. Souvent, on parle du libre comme étant gratuit, ce qui n'est pas le cas. C'est la plupart du temps des organismes à but non lucratif qui essayent de faire en sorte que le monde soit un petit peu meilleur, même en termes d'informatique, et qui se proposent de vous mettre à la disposition des services. Mais il faut bien comprendre que ces services-là, ils ont un coût énergétique, un coût en termes d'implication de temps, un coût en termes humains. Et que, voilà, il est important de bien comprendre que le libre est préférable, mais n'est pas forcément gratuit, et que c'est bien comme ça aussi. Voilà, je crois avoir fait le tour. Je ne sais pas si l'un d'entre vous voulait compléter sur ce que j'ai dit.
Par rapport au libre qui n'est pas toujours gratuit, c'est vrai, créer un logiciel, ça coûte de l'argent, comme tu l'as dit. Et tout le monde peut participer à payer, entre guillemets, ces logiciels en faisant des dons à ces différentes associations, à ces structures, en participant à des événements en tant que bénévole, à participer au logiciel en tant que tel pour proposer, par exemple, une traduction, améliorer la documentation, ce genre de choses. C'est vraiment un monde qui est ouvert et qui est ouvert à toutes les contributions de tout le monde, à la hauteur de ce que chacun peut fournir.
Merci. Voilà, alors on va passer maintenant, vu qu'on a bien vu que l'informatique, les ordinateurs et tout ce qui s'y rattache, tablettes, objets connectés, toutes ces choses-là ont quand même une place prépondérante dans nos vies et qu'elles sont vouées à le devenir à chaque fois un petit peu plus présentes au sein de nos vies. On se rend compte que de plus en plus, qu'est-ce qu'on fait des jeunes qui arrivent maintenant, qui rentrent de plein pied dans la vie, comment on va les instruire à ça, d'où la première question qu'on a voulu se poser ici ensemble, qu'est-ce que le libre peut amener à l'éducation, et avant ça, où en est l'éducation en termes d'informatique? Est-ce que par exemple les enfants qui vont à l'école ont des cours de codage, de programmation? Est-ce qu'ils sont simplement, comme moi je l'ai été à une époque, formés à utiliser les outils? Donc moi je sais utiliser par exemple OpenOffice, enfin la suite Office, je sais taper du texte et mettre en page du texte parce qu'on me l'a appris à l'école. Est-ce que vous deux, vous avez des références, des connaissances sur où en est l'éducation? Est-ce que justement nos enfants apprennent à coder, et s'ils le font, selon quelle modalité, que ce soit ici ou en France voisine, hein, ou même de manière générale en Europe?
Bon, pour ce qui concerne les logiciels, on va parler système d'exploitation pour le sujet des écoles, comment ils sont fournis. Normalement, si c'est une école privée, il est fourni avec un Mac, souvent, ou un Windows, dans les pires des cas. Dans les écoles publiques, peu à peu, ça se démocratise et ça devient Linux, comme la référence à être utilisée. Pas par une question de qualité, c'est plutôt, il le prend comme une question de coût.
D'accord.
C'est ça.
Ça, ce serait un peu la version idéale, mais aujourd'hui, c'est malheureusement pas le cas. C'est, comme tu l'as dit, bien souvent Windows ou Mac qui sont proposés dans les écoles. Il y a notamment eu un partenariat qui a été signé entre l'Éducation nationale en France et Microsoft. Un partenariat donc qui, alors, a priori, ne coûtait rien pour la France, mais permettait à Microsoft de fournir des logiciels, son service cloud, etc., gratuitement aux écoles en France. Donc ça représente un investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros pour Microsoft, mais rien pour la France. C'est un peu bizarre. On se dit, bon, c'est pas complètement désintéressé non plus de la part de Microsoft de proposer ça gratuitement, dans le sens où du coup, par la suite, on a appris à utiliser les outils Windows. Par la suite, on va être quelque part obligé de payer pour pouvoir les utiliser dans sa vie future, ou alors il va falloir réapprendre à zéro une nouvelle technologie, et ça c'est pas forcément évident. Et quand on a appris une technologie à l'école, on n'a pas forcément envie de réapprendre autre chose en partant de zéro, quoi. Et donc il y a des associations, des entreprises, un collectif qui s'est monté, qui s'appelle Edunaton, pour dénoncer ce partenariat. Il y a des actions en justice qui ont été entreprises, parce que c'est illégal, il n'y a pas eu d'appel d'offres, par exemple, et la France a signé ce partenariat comme ça. Donc ça, ça fait partie de la problématique. Après, à voir comment ça va évoluer dans l'avenir, on verra.
Alors, en ce qui concerne cet aspect de la gratuité, donc, alors, premièrement, tu nous as dit qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. Deuxièmement, je ne sais pas, mais est-ce qu'en France, éventuellement, la population n'a pas du tout été consultée pour ce genre de prise de décision ?
Ah bah non, voilà. On n'a pas demandé l'avis des Françaises et des Français, quoi.
Et donc concrètement, il s'agit d'équiper tous les ordinateurs relevant de l'éducation nationale française avec des outils, enfin déjà un système d'exploitation Windows, mais ensuite uniquement des outils fournis par Windows.
Alors, je ne connais pas les termes précis du contrat et tout ça, mais je sais qu'ils mettent à disposition sur de nombreux postes ces outils Microsoft. Je ne sais pas si ça concerne toute la totalité des ordinateurs qui sont présents dans les écoles ou si c'est une partie ou tout ça. Dans le détail, je ne sais pas, mais le problème de fond, c'est vraiment déjà juste que un État fasse un partenariat avec une entreprise déjà qui est américaine et qui en plus est déjà monopolistique dans son domaine, et en signant ce partenariat, l'État français assoit encore plus le monopole de Microsoft, et c'est ça qui est problématique.
Et le point de vue de Microsoft, c'est bien de donner en clé en main un système, une gestion qui est déjà organisée et qui est déjà opérationnelle, c'est-à-dire la volonté n'est pas du tout de former des gens pour utiliser, modifier, améliorer ces processus-là, ces outils-là.
Alors non, pas du tout. Microsoft fournit son package de logiciels et tout ça, qui fonctionne d'une telle manière, mais qui est pas ou peu modulable pour correspondre vraiment aux besoins et aux réalités des élèves et des éducateurs, pour le coup. C'est pas du tout. On n'a pas consulté les élèves pour savoir ce qu'ils aimeraient bien utiliser, par exemple. C'est assez opaque, oui.
Mais du coup, par ce fait-là, il crée de la dépendance. C'est-à-dire que le jour, d'ici 10-15 ans, peut-être moins, même peut-être 5 ans, peut-être 6 mois, tiens, si tout à coup quelque chose marche mal, ce qui peut arriver, il n'y aura déjà qu'un nombre réduit de personnes qui seront assez capables et qui auront les connaissances suffisantes pour résoudre ce problème, mais en plus de ça, aucune alternative ne sera proposée. Et donc les gens seront forcément dépendants de ce que pourra leur fournir l'entreprise. C'est bien ça, là. C'est là où on en arrive.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on ne propose pas d'alternative. Donc, c'est-à-dire qu'on ne forme même pas les élèves à réfléchir à quels outils ils peuvent utiliser. On leur présente l'outil de Microsoft avec Windows et tout ça, en disant, c'est ça l'outil informatique. Voilà. Ça fonctionne, oui, d'accord, ça fonctionne. Mais derrière, on n'a aucune formation à... Et comment ça va fonctionner derrière dans l'ordinateur? Comment on va utiliser ça? Comment on pourrait adapter l'utilisation à nos propres besoins, etc. Enfin, ça, ça existe pas, quoi.
Et ça semble très monolithique comme ça. En plus, tu prends et si tu prends tu fais juste pas.
C'est ça.
D'accord. Richard, t'as peut-être.
Oui, je vais prendre une phrase de l'April où qu'il avait mis Microsoft formate des enfants. Donc ça va résumer en gros ce qui se fait Microsoft avec les contrats de l'éducation en France. Mais dans le sens que tous les parents de famille, on est habitués, qu'on arrive à l'école, on leur montre les choses ou les chemins qu'il faut suivre aux enfants. Donc si on montre un ordinateur avec Microsoft ou Mac, bien sûr ils vont penser que ça c'est la réalité, ça c'est le but, ça c'est la vie. Et on ne montre pas qu'il existe d'autres possibilités. On essaye d'aider.
Et donc, je suppose que là, du coup, vu ce partenariat, cet accord qui a été signé, il est pour l'instant pas question d'approfondir les choses, d'apprendre aux enfants à coder dans des langages qui sont ouverts ou dans divers langages. C'est même pas quelque chose qui viendrait à l'idée de l'éducation nationale, en tout cas en France.
Alors si, il y a un grand plan numérique avec des centaines de millions d'euros encore qui sont investis et tout ça pour sensibiliser au numérique, pour tout ce genre de choses. Je ne connais pas dans le détail vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur de ces grands plans numériques pour le coup. Mais j'ai perdu mon fil du coup.
Il était quand même question d'apprendre aux gens à coder des outils.
Oui, voilà. Alors après, c'est sûr que ce serait, enfin, c'est pas bien ou pas bien de. Enfin, on est déconcentré. Ouais,
on a du passage de gens. C'est ça la beauté du direct
oui, c'est très chouette.
Et du vrai, tu vois, du faire dans la rue, quoi. Pardon.
Du coup, pour revenir à cette idée d'apprendre aux enfants à coder ou pas, moi, je pense que ça peut être une bonne idée de faire des initiations dès l'école, quoi, enfin, dès le début, dans le sens où sans vouloir que tous les enfants deviennent développeurs de logiciels, etc., mais simplement pour avoir une idée de comment ça fonctionne. Exactement comme à l'école, on nous apprend rapidement comment ça fonctionne, un moteur à explosion, mais on n'a pas besoin de savoir réparer son moteur si notre voiture est en panne pour pouvoir la conduire. La voiture, c'est un outil. Bah, le logiciel, c'est pareil, mais ça peut être pas mal de comprendre un petit peu comment ça marche derrière pour pouvoir, le jour où on a besoin d'adapter un logiciel, par exemple, pour son association, parce qu'on a besoin, on a un besoin spécifique, et puis on va savoir vers qui se tourner ou comment amorcer cette création d'une nouvelle fonctionnalité, par exemple.
Ouais. On aura justement cet apport, ces ressources, cet esprit critique qui va nous permettre, même si on n'a pas les connaissances effectives, qu'on ne sait pas que par exemple Framasoft existe, on aura au moins la présence d'esprit d'aller voir un petit peu plus loin, ce qui à l'heure actuelle nous semble pas du tout proposé, et même on n'est pas du tout encouragé à aller dans cette voie-là.
Voilà, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, l'informatique, l'ordinateur, c'est une boîte noire qui est obscure et qu'on ne sait pas vraiment comment ça marche à l'intérieur et tout ça. Je pense quand même que ça pourrait être pas mal d'apprendre aux gens et aux enfants notamment, mais pas que, un peu démystifier cette boîte noire et puis montrer que c'est pas si compliqué que ça reste de la physique, des calculs et que tout le monde pourrait le faire.
C'est ça. Et aussi, on en avait parlé il y a un mois, justement de cet aspect, comme tu disais, très mystique de l'informatique. Il faut bien savoir, encore une fois, les enfants, c'est des éponges. Les enfants et les préadolescents, adolescents et jeunes adultes, c'est vraiment des éponges. Pour
preuve, certains adultes aussi.
Certains adultes aussi, bien entendu, mais malheureusement, moi plus. Voilà, je sais pas vous, moi plus.
Heureusement.
Ça fait un moment. Et il y a eu dernièrement, justement, aux États-Unis, une rencontre des génies. Enfin, une mise en commun des génies du 21e siècle, des futurs génies du 21e siècle. Donc, c'est toutes des gens qui ont moins de 18 ans et qui ont été mis en avant lors de ce grand concours pour leur capacité incroyable. Et là, il s'avère qu'une des têtes de file à l'heure actuelle de la réflexion et de tous les travaux qui tournent autour de l'intelligence artificielle est une gamine de 14 ans. Qui bat à plate couture la plupart des penseurs et des gens qui réfléchissent à l'intelligence artificielle depuis des années et des années. Et ce petit bout de chou arrive, et tout simplement parce que c'est une éponge, elle a une manière de voir les choses, de les aborder qui est telle qu'à 14 ans, elle lamine les plus grands spécialistes de l'intelligence artificielle. Comme quoi, il n'est vraiment pas très compliqué d'essayer d'amener des outils intéressant, intelligent, ouvert à nos jeunes, quoi. Et donc de ça découle vous n'importe qui travaillez de près ou de loin avec des enfants, même des jeunes adultes, prenez attention et essayez de trouver des ressources qui pourraient vous permettre de faire exactement le même travail, mais peut-être avec un regard différent, un point de vue différent. Et pour ça, c'est vrai que nous, on a essayé ici de réunir quelques ressources. Une espèce de bibliographie. Je crois que toi, Mallory, t'avais
une bibliographie pour les ressources.
Les ressources, ouais, de April.
Oui, alors il y a l'April qui travaille sur différents sujets en rapport avec le libre, et notamment il y a tout un groupe de travail qui a à voir avec le libre et l'éducation, justement. Donc il y a un wiki avec plein d'informations qui sont dessus, c'est vraiment intéressant. Et après, au niveau des ressources que tout un chacun peut avoir pour l'utilisation de logiciels libres et tout ça, y a l'association Framasoft, dont on avait déjà parlé la dernière fois, qui est une très bonne porte d'entrée pour les personnes qui n'y comprennent rien du tout, mais qui sont curieuses et qui ont envie de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Et après, ça dépend des logiciels qu'on veut utiliser, ça dépend un peu tout ça, mais il y a une mine d'informations incroyables sur Internet. Et voilà, je ne sais pas, Richard, si toi, tu avais des idées de ressources.
Comme je disais tout à l'heure, les ressources qu'on peut avoir, comme j'ai reçu Mallory, et bien mentionné aussi ici, c'est Framasoft et April qui donnent des possibilités à ces personnes qui sont curieuses. Je reviens un peu tout au début pour parler des enfants. Les enfants à la base sont curieux. Mais si vous arrivez à une école qui est à Windows comme système d'exploitation, quelle curiosité vous les donnez à cet enfant à connaître plus? Il va voir que l'informatique c'est ennuyant, que c'est pour taper des textes, écouter la musique et regarder des vidéos. Voilà à ce que se résume l'informatique pour eux. Mais si, il n'y a personne qui peut le dire qu'il existe une autre possibilité. Vous pouvez changer l'ordinateur. On peut lui donner la possibilité de devenir une poste radio. Ça peut devenir... on peut faire des petits cinémas, des petits films pour soi-même. Donc, c'est ça la curiosité qu'on doit donner dans les écoles. Et c'est là qu'ils pêchent les ministères d'éducation. Dans les cas présents en français, il y a d'autres choses qui vont pêcher qu'on va traiter plus tard, excusez-moi. Qui plutôt attaque à la créativité des enfants. Si ces gamins de 14 ans est arrivé, ce n'est pas un hasard, c'est que simplement il a plus de curiosité que les autres enfants qui n'ont jamais été veillés pour aucun professeur ou aucun enseignant dans sa vie.
Ouais, ok, d'accord, on comprend bien. Eh bien écoutez, voilà, je ne saurais pas quoi dire à vous tous, enfin quiconque travaille de près, encore une fois, de près ou de loin avec des enfants, essayez de faire un peu attention à ce que vous leur proposez, Mallory, t'avais encore...
Oui, non, j'avais quand même quelque chose à ajouter, parce qu'il n'y a pas que du pas bien non plus dans l'éducation et tout ça, il y a quand même des initiatives, il y a quand même des profs et des éducateurs, des éducatrices qui vont dans le sens du libre et qui militent avec ça au quotidien, qui se battent un peu contre les différentes directions de leurs écoles et tout ça pour militer en faveur du logiciel libre dans le milieu éducatif. À Genève, il y a le projet J'ai libre et dû, libre et dû, je ne sais pas vraiment comment on le dit, mais c'est une partie du... Alors je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est le DIP, le département de l'instruction publique. C'est une partie du DIP qui travaille sur la mise en place de logiciels libres dans les écoles à Genève. Il y a certaines écoles qui sont équipées avec Ubuntu, il se passe des choses comme ça. Alors là, j'ai vu que leur site internet était... malheureusement, il faut un login mot de passe pour pouvoir accéder aux différentes ressources, ce que je trouve un petit peu dommage, mais il doit y avoir des raisons. Donc notamment qui propose aussi des ressources pour les enseignants et enseignantes pour pouvoir... concevoir ensemble des formations avec les logiciels libres, par exemple, ou pour pour les élèves, pour pouvoir utiliser et approfondir éventuellement ce qui a été vu à l'école.
Ok.
Il existe aussi une autre initiative, ça s'appelle Avul Edu. Je ne sais pas si vous avez dû entendre. C'est plutôt une initiative des enseignants, dans laquelle ils créent un paquet de logiciels pour d'accord au cycle dans l'école, pour enseigner aux enfants.
D'accord, et ben c'est déjà pas mal, on va dire.
Oui, c'est très
bien.
On
peut mieux faire, mais on a déjà ça.
Il y a des gens qui se battent pour le logiciel libre en tout cas.
Voilà, et surtout à Genève, on a quand même pas mal de ressources ici. On va citer notre arcade chouchou Itopi à la rue Lissignol et les copains qui la gèrent. Voilà, allez-y, coopérative, inscrivez-vous, devenez membre, allez demander conseil. N'hésitez pas non plus à nous contacter, bien entendu, si vous avez des questions, hein, que ce soit l'aimant libre, que ce soit la cryptopartie de Genève ou que ce soit nous à Libre Radio. On est tous accessibles sur Internet très facilement et on a tous des super ressources et on est tous très très intéressés par tout ce qu'on fait. Est-ce qu'il y aurait une question à laquelle j'ai pas pensé, à laquelle vous auriez aimé répondre éventuellement? des ressources que vous aimeriez encore partager en lien avec le libre et l'éducation?
Alors, bah, il existe plein de, si vous voulez, par exemple, avec votre enfant, votre neveu, nièce ou les enfants des amis de la famille, je sais pas, faire découvrir un peu autre chose. Il y a des logiciels qui existent. Il y a Primtux, qui est une distribution Linux donc libre, avec des jeux éducatifs à l'intérieur. Donc on peut directement installer, par exemple, sur un vieil ordinateur qui traîne, on peut installer ce logiciel, enfin ce système d'exploitation pour le coup dessus, et puis l'offrir à l'enfant, par exemple, qui va pouvoir utiliser les différents jeux éducatifs. Il y a J'ai compris, qui est une suite de jeux éducatifs libres, multilingue. Alors ça, c'était assez... je suis allée voir sur le site tout à l'heure. J'ai voulu changer pour mettre en français et il y a au moins une vingtaine de langues. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette et ça montre à quel point quand la ressource est libre et que tout le monde peut se l'approprier, et ben, les gens se l'approprient et il va y avoir des traductions dans toutes les langues ou presque. Enfin voilà, donc ça c'est une idée aussi. Après, pour apprendre un peu plus au niveau du hacking, entre guillemets, du bricolage et tout ça, il existe des ressources, notamment je pense à Arduino, qui est un microcontrôleur qui permet de, par exemple, automatiser certaines... On m'entend ou pas ?
Oui.
D'automatiser certains mécanismes ou ce genre de choses. Tout ça, ça a été créé pour l'éducation et pour apprendre aux enfants et aux pas-enfants, aux adultes, à utiliser ces ressources informatiques. Donc, il y a des choses à découvrir.
Je reprends le conseil ici de Mallory, dans le fait que si vous donnez à votre enfant un vieux ordinateur qui traîne chez vous, c'est une très bonne idée si vous le donnez, ouais, parce qu'il va s'amuser à le faire de toute façon, il n'a rien à perdre. Il va finir soit à la poubelle, soit dans les déchets au milieu de votre maison. Ouais. Donc, vous verrez comment l'enfant, peut-être, il pourra s'amuser en jouant avec cet ordinateur.
Ouais. Et puis, c'est vrai, essayez vous-même. Hein, excusez-moi. C'est extrêmement intéressant de voir ce qu'il y a à l'intérieur de nos machines. Donc, c'est vrai que même pour les adultes, ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur, des fois, on a des déclics, tout à coup, on comprend que ça, c'est ça, et que ça communique avec ça. Donc, si vous avez des choses qui sont complètement HS, moi je vous encourage, même si c'est des grille-pains, hein, ouvrez-les, regardez ce qu'il y a dedans, sauf si c'était vivant avant. Hein. Ouais. Ça, quand même pas. Mais
c'est toujours très... Avant d'ouvrir.
Il faut débrancher, ah oui. Merci. Bravo, joli. Ça aurait été con, mais ouais, effectivement. Extra. Alors, dernière partie, moi je voulais finir cette rubrique et puis instaurer ça éventuellement pour les prochaines. Je voulais vous exposer à vous deux qui êtes quand même un peu plus experts de la question de l'informatique que moi et certainement que la plupart des gens qui nous écoutent. Alors, je vais vous exposer un cas, ça ne m'est pas arrivé, c'est arrivé à des gens, mais pour l'anonymat, je vais prendre la forme du jeu. Alors voilà, j'ai une boîte Gmail sur laquelle apparaît mon nom, mon prénom. C'est mon prénom.monnom@gmail.com et je reçois de la part de mon papa, avec lequel je ne vis plus, un document qui est arrivé chez lui par erreur. Donc il l'a scanné, il me l'a envoyé. Je lis le corps de texte, salut ma petite puce, ce document est arrivé pour toi, prends-en bonne note, voilà. J'arrive à la fin du mail, et là j'ai deux réponses qui me sont proposées, et dont l'une des deux, la réponse contient les mots « Bonjour papa, je te remercie pour ce document, j'en prends bonne note et je vais le traiter ». Qu'est-ce que ça... Donc ça c'est une réponse automatique qui m'est proposée par Gmail, qui m'est proposée par mon mail. Qu'est-ce que tout ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
Je pense que c'est une bonne manière de donner un exemple comment ça marche l'intelligence artificielle là. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a choisi la réponse pour vous, c'est une machine qui a donné la réponse pour vous en s'avançant que c'était ton père qui t'écrivait, donc il savait que c'était ton père. On revient au problème de Facebook, des données qu'il connaît des personnes. Google avec Gmail, il le fait aussi pareil. Faut pas chercher. Et Microsoft, il n'est pas loin dans les contextes. Si vous avez un compte Outlook, Hotmail ou Live, vous serez concerné en tout cas.
Ça pose la question de l'intelligence artificielle, mais comme tu l'as évoqué, surtout de la collecte des données, en fait. Parce que l'intelligence artificielle, elle travaille sur des données. On parle d'intelligence, mais ça reste des algorithmes qui traitent des données. Ces données, en fait, c'est que depuis que Gmail existe, tous les mails sont lus et analysés par Gmail pour comprendre comment les humains communiquent entre eux, en fait. Et c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, Gmail propose tu pourrais répondre ça ou ça, et ça a un côté assez effrayant, mais je pense que ça peut aussi faire en sorte que les gens se rendent compte à quel point c'est intrusif, parce que jusqu'à maintenant on n'avait pas vraiment de preuve de ça. Là c'est la première preuve de ça. Enfin, s'il y avait un peu la preuve de la publicité qu'on nous proposait, par exemple. Mais là, c'est encore pire quelque part, parce que l'instance se met à notre place et propose une réponse. C'est assez assez effrayant pour la suite, mais on verra comment ça évolue.
Oui, il est vrai que ça c'est un exemple que d'intelligence, comment Gmail récolte des données. Mais on peut aussi indiquer... Ah, j'ai perdu les fils.
Ouais, je ne sais pas, le indiquer par rapport à Gmail...
Oui, l'exemple, on va reparler d'ici de Gmail, Google. Il n'a pas... Il y a un mois ou deux, si je ne me trompe pas, ils ont fait une petite présentation dans laquelle les téléphones, la dernière version d'Android, ils pouvaient répondre pour nous ou faire une commande pour nous. En sachant simplement que nous on voulait aller, par exemple, acheter une pizza.
Ah ouais, mais sans que nous, on ait activement pris le téléphone et qu'on soit allé... Enfin, il le fait tout seul.
Simplement, dans ce cas, le système, il savait qu'on téléphonait à une pizzeria et il a commandé la pizza toute seule parce qu'il savait que c'était une pizzeria où il téléphonait. Il savait que la personne, il cherchait à manger. C'était l'heure de dîner, on va dire.
D'accord. Eh bien, voilà. Voilà, voilà. Et bien c'est sur ces belles notes qu'on va se laisser. Pensez, messieurs, dames, à ne surtout pas hésiter à nous contacter si vous avez encore des questions, à penser à nos diverses associations, l'Aimant Libre, la Cryptopartie et Radio Libre, Libre Radio, pardon. Oh là là. Si vous avez des questions quelconques, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à vous renseigner sur les événements, les activités qui viennent dans le futur, notamment via Itopi ou nos sites internet respectifs. Réfléchissez, ayez toujours l'impression quand vous écrivez vos emails qu'un œil vous regarde, vous observe, parce que c'est le cas. Essayez de faire attention à la manière dont vous communiquez entre vous, de quelles sont les informations que vous faites passer. Si vous avez des proches, des petits autour de vous, faites attention aussi à tout ce que vous leur proposez comme outil. Et voilà, j'ai envie de dire conscientisez-vous.
Oui.
Et puis on se retrouve dans un mois pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup Malorie, merci beaucoup Richard. À bientôt. Ciao ciao. Arrosako soran kantu sirimoran naiz eta telebistan ez gaituzten modan euskalaren gara lokarri azkarra gauiru nonetako gure artizara zazpi unangire txutxuta ekilez Oraina ta geroa ez ditezke berez Konzertunen bidez, musika ez diez Euskai zenta izan abetiko zabitez Zazpiunan gire, txutxuta ekilez Oraina ta geroa ez ditezke berez Konzertunen bidez, musika ez diez Euskari zenta izan abitiko zabitez Lukatan burgesa, euskari mandesa Gustua gazea ere zertu gure desa Gertu nahi digute, nikoz zabertute Izakiko nikoak egin nahi daikuzte Jore zagun bada, norak ialaba Multinazionaro jen Zagun bada
bertatu diben bilgune goxoa gurdu gurte duemen Guainen idoan asmoa geroan Elgaren ezagutza daukagu gogoan Mundu